Depuis quelques jours déjà et jusqu'au 21 décembre, jour de l'hiver et nuit la plus longue de l'année, le festival Nuit d'hiver décline une 9e édition chic et psy, donc psychique, psyché, psychédélique et même psyché idyllique. On écoute en ce moment sous nos voix Cancun, un des artistes invités de ce festival, et ils sont nombreux. 35 musiciens et groupes invités à rêver éveillés sur quelques divans marseillais. L'Embobineuse, le GMEM, la Compagnie, la Galerie OU et même Montevideo qui, pour l'occasion, réouvre un temps ses portes au public. Nuit d'hiver, un festival porté à bout de bras, à bout de rêve par le Grimm, dirigé par Jean-Marc Montera. Jean-Marc, bonjour.
Bonjour.
De même que la précédente édition de Nuit d'hiver, qui était sous l'intitulé Baroque, revisiter l'esprit de la musique baroque et croiser allègrement guitares et clavecins. De même, cette année, sous le signe psychédélique, on verra revivifier un esprit de création musicale sans frontières ni contraintes, sans pour autant d'ailleurs être directement lié à la vague psychédélique des années 60 ou 70. Pas de nostalgie babacool à attendre, ni distribution de psychotropes, ni danse échevelée dans la gadoue. Nuit d'hiver 9, c'est pas Woodstock, mais au contraire, l'émergence d'une nouvelle génération musicale. Jean-Marc, beaucoup de jeunes musiciens invités pour cette 9e édition de Nuit d'hiver.
Oui, c'était pour insister justement sur le fait qu'on n'était pas dans une dynamique nostalgique du psychédélique que mon âge m'a permis de connaître, mais de revisiter, de voir comment était revisitée cette musique par de jeunes musiciens et comment ils se l'appropriaient, qu'est-ce qu'ils en faisaient au travers de leur pratique et quelles paroles ils lui donnent comme outil de revendication, parce que c'est le folk, le psychédélique, le rock à une époque était quand même une musique assez vindicative.
Vindicative, combative, une contre-culture à l'époque, ça l'est peut-être encore aujourd'hui. Et effectivement, je te cite Jean-Marc, une 9e édition de Nuit d'hiver qui œuvre obstinément à ce que tous ceux qui empêchent de rêver perdent le sommeil. Sic dixit. Alors Jean-Marc, c'est une édition de combat, cette 9e édition?
Non, n'exagérons pas. Non, c'est pas, en tout cas, c'est pas dans un esprit de haine ni de violence. C'est effectivement, on peut faire le constat que malgré les situations, les conditions dans lesquelles on vit actuellement, la parole politique, la parole de la contre-culture, la parole d'une certaine jeunesse est complètement étouffée et n'a plus l'espace pour s'exprimer. Et ça, c'est une régression. On pourrait la dater, on sait très bien d'où elle vient et par qui elle a été insufflée. C'est une régression par rapport à ces années 70 qui est quand même très inquiétante.
Une édition cette année délocalisée, si on peut dire. Enfin, en tout cas, j'évoquais tout à l'heure que Montevideo réouvrait un petit peu ses portes. Mais l'essentiel de la programmation se déploie sur de nombreuses salles à Marseille, et pas que à Marseille. D'ailleurs, il y a aussi, je crois, une programmation à Miramas et une programmation à La Courroie, sur la Sorgue. Malgré tout, des partenaires pour cette année, une situation de Montevideo où le lieu est un petit peu sur sa fin, on va dire. Est-ce que ça oblitère l'avenir de ce festival Nuit d'hiver? Comment est-ce que tu le vois pour les années qui viennent?
Non, enfin, tout d'abord, Montevideo n'est pas encore sur la fin. Pour redonner une information, on a un bail qui va jusqu'à août 2013. Il est possible qu'il soit reconduit jusqu'en 2016. On est en train d'examiner les possibilités de cette reconduction, ce qui ne nous permet pas toujours de faire les travaux qui nous autoriseraient à réouvrir au public. Donc là, le problème est là, c'est qu'on a
des travaux qui coûtent très cher.
Des travaux trop chers pour un temps d'amortissement trop court. Donc effectivement, on est dans la même situation que l'année dernière, sauf que, comme vous l'avez noté tout à l'heure, on ouvre à nouveau notre salle, le studio musique, la salle du bas, le 20, pour une série de concerts, parce qu'on a une autorisation pour 49 personnes. Voilà, donc on espère que... On aura 49 personnes.
On va laisser passer cette 9e édition. Il est encore bien trop tôt d'en faire le bilan, bien sûr, mais pour les perspectives d'avenir, tu penses plutôt continuer sous cette forme, c'est-à-dire un festival qui va volontiers hors les murs, qui développe des partenariats privilégiés avec l'Embob, avec le GMEM, ou bien à la recherche d'un nouveau lieu?
Ça a été un peu la découverte de l'année dernière quand on s'est retrouvé à être obligé à 2 mois et demi du festival, une fois que la programmation était déjà faite, il a fallu qu'on trouve 6 ou 7 lieux. Et j'ai pu constater l'élan de solidarité qu'il y a eu dans la profession à Marseille et dans la région, puisque dès l'an dernier, la Courroie nous a accueillis aussi. Et ces collaborations un peu obligées m'ont donné envie de continuer, quoi qu'il arrive, à travailler avec d'autres structures à Marseille et dans la région, quelle que soit la situation future de Montevideo. Si on pouvait réouvrir et faire des choses dans nos murs, évidemment, on s'en priverait pas, mais c'est pas pour autant qu'on arrêterait de collaborer avec des structures voisines.
Dans ce studio de Grenouille pour cette émission spéciale, tu n'es pas venu tout seul, Jean-Marc. Tu es venu accompagné de quelques-uns des artistes invités de cette 9e édition du festival. On les présente dans un instant, le temps d'écouter un extrait de Sea Buckthorn. Journeyed Road de Sea Buckthorn, un des artistes invités de cette 9e édition du festival Nuit d'hiver, une émission spéciale sur les ondes de D3-8, en compagnie de Jean-Marc Montera, venu avec quelques complices qu'il est maintenant temps de présenter. Famoudou Donmoyer, qui est batteur et percussionniste, notamment au sein de l'Art Ensemble of Chicago, et aujourd'hui avec l'Invisible Ensemble. Salut Don.
Salut, bonsoir.
Arnaud Maguet, qui est artiste et dont l'œuvre croise l'image et le son dans des explorations des contre-cultures et des esthétiques underground. Salut Arnaud.
Bonsoir.
J'espère que les vernissages de cette semaine n'ont pas été trop rudes.
J'ai de l'entraînement.
Ah, plaisant. En tout cas, apparemment, on m'a dit qu'il y avait pas mal de monde. Yeah. Avec nous aussi dans ce studio, Pedro Lopez, alias Moondown, qui est musicien, qui hypnotise un folk rock sous influence parfois électronique, et qui vient de sortir il y a peu de temps un album intitulé Neoliberalism Destroyed My Life. C'est sur Microphone Records et c'était enregistré au Grimm en avril dernier. Alors Pedro, justement, tu viens d'Argentine, je crois. Tu es arrivé à Marseille il y a 2 ans. Quelques mots sur la scène underground, justement, en Argentine. Il y a une scène psychédélique en Argentine.
Bonsoir. Je suis arrivé à Marseille, ça va faire 3 ans déjà. Et en Argentine, il y a une scène musicale assez grande, qui, on peut dire psychédélique, mais il y a aussi la musique plutôt indépendante qui, depuis le début des années 2000, ça a commencé à être plus grand et plus fort et qui s'abouche beaucoup. Il y a des labels indépendants, des distributeurs indépendants de disques. Donc au niveau musical, c'est vraiment vaste en fait. Il y a de rock, garage, de rock noise, de la musique électroacoustique, que c'est aussi assez fort la scène, et la musique électronique aussi. Oui, c'est une scène en pleine ébullition.
Beaucoup d'auto-production, j'imagine. Les artistes sont installés dans leur propre studio, produisent leur propre musique, ou bien il y a des labels en Argentine intéressants qui émergent en ce moment?
Il y a des labels. En fait, voilà, je crois que c'est un phénomène mondial. Tous les musiciens maintenant se trouvent plus confortable de répéter et produire sa musique à la maison. C'est pour des questions économiques et artistiques aussi. Et après, en Argentine, il y a des labels comme le label Sadness, qui c'est un label qui édite de la musique hardcore à la musique la musique expérimentale, improvisée, la musique pop aussi. Et c'est un label qui est complètement indépendant et qui organise ses propres soirées, ses propres concerts, organise les tournées de ses artistes aussi. Après, il y a des sortes de labels, net labels, comme ça se dit, et il y a des labels aussi indépendants, déjà plus installés dans le mainstream. Mais moi, je cite toujours les petits labels qui viennent de commencer, parce que c'est le plus intéressant. Justement, pour moi, les musiciens, les artistes les plus intéressants, c'est ceux qui sont commencés à répéter hier.
Alors, en Argentine, tu travaillais dans un groupe, tu as déjà produit plusieurs albums, mais qui étaient en compagnie d'autres musiciens, acoustiques et électroniques. Et en revanche, ici, tu as un projet solo, ça s'appelle Moondown. Alors ici, tu as rencontré personne encore? Ou c'est un choix délibéré de ta part d'avoir envie de
travailler? J'ai rencontré pas mal de monde dans la scène marseillaise, qui est vraiment, vraiment riche. Je sais pas, j'ai des amis de la scène punk rock, garage, de la scène. C'est toute la même scène pour moi, à mon avis. Mais par contre, j'ai choisi de jouer comme ça parce que c'était plus pratique. Peut-être Moondown, ça va accueillir des musiciens plus tard, mais pour le moment, il faut que moi, je suis à l'aise avec mon projet avant de partager avec les gens.
Alors, je suis sûr que les auditeurs vont être en tout cas à l'aise avec ce projet, et on va leur proposer tout de suite d'écouter un extrait de Moondown. Thank you. Néolibéralisme Destroyed My Life de l'album éponyme de Moondown, Moondown alias Pedro Lopez. Alors, on l'a entendu, des notes de guitare en picking, quelque chose qui est très léger, très doux, qui tire effectivement sa substance de la pratique du folk et qui l'emmène un peu ailleurs. Quelque chose aussi qui est un peu empreint d'une certaine tristesse, enfin d'un sentiment un peu sombre. Le titre le renforce, le néolibéralisme a détruit ma vie. On parlait tout à l'heure avec Jean-Marc d'un esprit combatif de cette musique psychédélique. Là, on a l'impression qu'il y a, il y a presque quelque chose comme l'ébauche d'un désespoir dans cette musique, Pedro. C'est pas si combatif que ça. Un peu triste.
Quoi, des labos.
Un peu désespéré. Une musique un peu... Ouais, on a peut-être. Musique un peu désespérée. Un peu triste.
Un peu triste. Ouais. Mais ça ne veut dire pas que je suis triste. C'est sûrement la façon de m'exprimer, peut-être, avec ce sujet-là. Je trouve plutôt que c'est un morceau politique sans avoir des paroles, en fait.
Alors, qu'est-ce que tu mets comme contenu politique, justement, dans ce morceau? Évidemment, une critique amère du libéralisme, ça c'est clair.
Ouais, et c'est justement la critique que j'ai fait à tout ce qui s'est passé dans mon pays, dans l'Amérique du Sud surtout, dans les années 90, début des années 2000. Justement, c'est une critique sans parole parce que il y a beaucoup de choses qui sont déjà dites. Donc, je me trouve pas dans une place pour dire des choses, mais je préfère le dire au niveau musical.
Une situation qu'on va peut-être rejoindre ici en Europe. D'ailleurs, on se rappelle que dans les années 90, en Argentine, un immense crack économique. Ouais. Toutes les banques pratiquement avaient craqué. Les middle class devenaient cartoneros et étaient dans la rue, essayaient de vendre un peu tout et n'importe quoi. Donc là aussi, le système bancaire qui fait craquer l'économie d'un pays, c'est quelque chose qui évoque un peu l'actualité brûlante en ce moment en Europe. Ça pourrait bien nous arriver aussi. Alors le morceau qu'on a entendu est tiré d'un album qui a été enregistré en résidence au Grimm. Peut-être quelques mots sur cette résidence, comment ça s'est passé.
Et ça, d'abord, ça s'est passé super splendidement bien. Et j'avais eu la chance de faire cette résidence. C'était justement, je commençais à jouer toute seule et il y avait un concert qui, Jean-Marc, il a débarqué, je me souviens, au disquaire Lollipop. Et bon, lui, il m'a proposé tout de suite de faire cette résidence. Pour moi, c'est la première fois que j'ai fait un truc pareil.
Tu avais combien de temps devant toi pour produire cet album?
Au début, il y avait 6 jours, mais après, Jean-Marc m'a proposé de faire 2 jours de plus, je me souviens. Et donc, on a fait, en 8 jours, je fais 2 albums, en fait.
La maison est généreuse, hein, Jean-Marc.
Il faut prendre le temps de faire les choses bien, sinon c'est pas la peine.
Absolument, et c'est le cas, en tout cas. Effectivement, la production de cet album est vraiment impeccable, et je pense rend justice à ta
merci aussi à Camille Valinson, qui c'est elle aussi qui a proposé... Et que je travaille au Grimm et à Eric aussi qui a travaillé beaucoup là.
À toute l'équipe du Grimm qui, rappelons-le, est passe là simplement pour produire des festivals, hein, Nuit d'hiver ou bien Son de plateau un peu plus tard dans l'année, enfin au printemps plutôt, mais qui est aussi tout au long de l'année un lieu de résidence, d'accueil d'artistes. Jean-Marc, sur l'importance justement de ce type d'accueil, de résidence, de prendre du temps pour produire des choses et pas uniquement d'être dans l'événementiel.
Oui, c'est un peu la vocation qu'on s'est donnée au Grimm, hein, c'est d'être dans une dynamique de, oui, presque de service public par rapport à ces musiques-là. Hein. On a un lieu, on a des subventions. Il y a des gens qui n'ont pas de subventions, qui n'ont pas de lieu. C'est normal qu'on les accueille. Et effectivement, c'est notre cœur va plus volontiers vers de jeunes musiciens, vers des formes émergentes. Et sans obligation de résultat, c'est-à-dire que les résidences ne sont pas obligatoirement assorties d'un concert de fin de résidence où à la fin de la semaine on est obligé de faire une présentation soi-disant du travail. En fait, en une semaine, on n'arrive pas obligatoirement à présenter quelque chose. Donc le principe, c'est qu'on fait la résidence dans l'année et on fait le concert pendant le festival Nuit d'hiver.
roulement de tambour pendant que Famoudou tout doucement est en train de décliner. Famoudou, c'est pas encore l'heure de la sieste, déjà que Arnaud a eu des nuits incroyables jusqu'à 7h du matin.
Je suis réveillé à 6h30.
En tout cas, je voudrais te dire qu'on est très honoré de ta présence dans ce studio de Grenouille. On rappelle que tu étais le batteur de l'Art Ensemble of Chicago. Le batteur de l'Art Ensemble of Chicago. Il y a un autre projet ici dont on va parler dans un instant. Mm-hmm. Un Art Ensemble of Chicago que tu as, je crois, rejoint en 1970.
69. Fin de 69, décembre.
D'accord. Ok. Un groupe de jazz, soyons précis, tu as raison Famoudou, un groupe de jazz mythique auquel ont aussi contribué des grandes pointures comme Lester Bowie ou Cecil Taylor, voire Brigitte Fontaine, puisque cet Art Ensemble était habitué à des allers-retours des deux côtés de l'Atlantique, entre Chicago et Paris. L'Art Ensemble of Chicago, un jazz libre, libéré, polyinstrumental. Parle-nous un petit peu de cet esprit de liberté des années 70, du free jazz, de l'esprit qui régnait dans cette musique.
Je connais rien de free jazz, parce que la musique plus difficile à faire est la musique improvisée. Les gens ont dit free jazz, mais you know, ça n'existe pas. Nous jouons grande musique noire et musique improvisée dans l'improvisation collective. Mais free, trop difficile. Lester Bowie, il a toujours dit, pour vraiment jouer librement, il faut avoir, you have to be able to play whatever you want to play.
Tu dois jouer ce que tu as envie de jouer.
Oui, that's free. In context, though. So, then, collective improvisation, c'est difficile si on ne connaît pas les gens avec qui on joue. Donc, comme ça, nous avons répété souvent pour longtemps, pour des années, 8 heures par jour. Les périodes que nous avons fait les répétitions, toujours 8, 10 heures par jour. Dans, you know, quelquefois, pour un mois avant d'aller faire un concert, en tournée, quelque chose comme ça. So, pas libre, pas du tout.
L'Art Ensemble of Chicago, en tout cas, un espace musical dans lequel dialoguer des cultures différentes. Et tu as beaucoup fait aussi pour que les cultures afro-américaines et aussi africaines soient extrêmement présentes dans cette musique. Et sous une forme renouvelée sur ces influences musicales, justement, africaines, sur l'africanité de cette musique que tu joues dans le Art Ensemble of Chicago.
Nous avons joué beaucoup avec les musiciens africains, aussi jamaïcains, Haïti, Guadeloupe, les Antilles.
Afro-caribéens,
oui,
tu as raison.
Oui, oui, brésiliens. Et j'ai joué souvent avec les gens de l'Inde, du Japon. Mais,
dans ces années 70, aux États-Unis, c'était l'affirmation d'une culture. Ça, c'était pas facile à cette époque-là aux États-Unis.
Dans quel sens? Pas facile.
Parce que c'était un pays qui sortait à peine d'un moment de ségrégation, que c'était pas si facile d'affirmer des cultures black.
Difficile, mais nous avons fait tous nos efforts comme un collectif entre les musiciens, les artistes, les peintres, les poètes. Nous avons fait beaucoup de projets ensemble, multidisciplinés. So, comme ça, on a gagné un peu d'énergie, de force. C'était toujours, toutes les productions ont été partagées. Nous avons payé nous-mêmes sans subvention, comme ça. C'était difficile.
Et souvent, les musiciens de cet Art Ensemble étaient eux-mêmes polyinstrumentistes, je le disais. Toi-même, tu pratiques de très nombreux instruments, batterie, percussion et d'autres encore. Et justement, avec une approche de la percussion très, très nouvelle, très innovante, une approche mélodique, au fond, de la percussion. Ton rôle dans l'ensemble, c'est pas uniquement de donner une base rythmique, mais c'est aussi de développer presque, je dirais, un chant de la percussion.
Oui, j'avais joué le violon, j'ai étudié le marimba et tout ça. So. pour moi, la batterie est plus que rythme, c'est aussi mélodie, harmonie, voix, corps, cœur, brain. Yeah.
Et si à Marseille, tu travailles, tu joues avec un autre ensemble qui s'appelle l'Ensemble Invisible, Invisible oui. Ensemble, mm-hmm. un ensemble qui réunit aussi Raphaël Imbert au sax, Paul Elwood au banjo, Pierre Fénichel à la basse, Simon Siégère au trombone et Thomas Verich et Jean-Marc Montera aux guitares. Parle-nous un petit peu de cet Invisible Ensemble, qu'il nous soit un peu plus visible.
Oh, la musique, nous jouons la musique, les compositions de Paul Elwood. Et j'aime beaucoup le banjo, ses origines africaines et ses... Racines africaines et ses développements aux États-Unis. So c'est toujours intéressant de jouer avec les cordes pour la guitare, le banjo, le basse, la basse. So, puis tous les gens, nous répétons souvent, tous les jours je joue avec Jean-Marc et Paul. Puis nous faisons l'improvisation et aussi les choses originales. So, c'est du boulot, c'est du travail.
C'est du taf, comme on dit, et c'est du taf qui donne des bonnes choses. Et d'ailleurs, pour s'en rendre compte, on écoute tout de suite un extrait de Invisible Ensemble.
kitchen from the rain. For the lightning will turn everything in the night to blue flame. You better come on.
Un extrait de Invisible Ensemble featuring Famoudou Dommoyé. Alors si on écoute bien les paroles, ça dit « There's a blue plane in my kitchen ».
A blue flame.
A blue flame.
Comme le feu.
Ah, je croyais un blue plane.
Non, je me disais,
tiens donc, dans sa cuisine, il y a un avion bleu. Oh là là, c'est effectivement psychédélique, mais une flamme bleue.
Flamme bleue.
Ça peut l'être aussi. C'est quoi cette flamme bleue, Famoudou?
Ah, bleu. Tu dois demander Paul.
Ah, faut demander à Paul Elwood alors le sens de
C'était l'énergie entre lui et sa copine.
Des projets,
sans doute.
Des projets encore avec Invisible Ensemble, Famoudou.
Nous répétons et maintenant, j'avais ajouté violoncelle. Et on pense avoir un violon aussi, percu, voix. So, 12 musiciens sur la scène.
12 musiciens au total.
12.
Waouh. On va maintenant partir à la découverte d'un autre artiste dans la programmation de cette 9e édition des Nuits d'hiver. C'est Arnaud Maguet. Arnaud Maguet, c'est un génie. Enfin, c'est lui qui le dit. I'm a genius. C'est une proposition, une couleur sonore sur DVD que tu viens de sortir, Arnaud, en 2011, cette année. Et en attendant, tu présentes pour cette édition de Nuits d'hiver une exposition à la Galerie OU. Alors, peut-être quelques mots sur cette proposition à la Galerie OU.
Oui, tout d'abord, c'est le titre d'un film qui s'appelle I am genius and I can do nothing about it. Mais c'est pas moi, bien sûr, ma modestie m'empêche de dire ça. C'est une phrase de R. Stevie Moore, qui est un musicien américain qu'on est allé voir avec mes complices de Hi-Fi Club cet été à Nashville, avec qui on a enregistré un disque, sur qui on a fait un film et qu'on est en train de monter, et qui sortira en 2012. Et donc là, il y a une espèce de preview à la galerie avec des... comme un journal de tournage qu'on a fait à Nashville chaque jour cet été.
Alors justement, sur ces pèlerinages, on pourrait dire, à Nashville, enfin en tout cas c'est une ville qui a un peu, qui donne un peu l'impression d'être la Mecque du rock, sur la façon dont tu travailles toi et dont tu réintègres dans ton travail ces mythologies des musiques américaines. Tu prends une distance par rapport à ça ou tu es vraiment fasciné par ces années 50, 60, 70?
Je suis fasciné, mais pas forcément jusqu'aux années 70, jusqu'aux années 80, 90. Et je suis encore plus fasciné par l'année 2011 et par la prochaine, la 2012. À Nashville, c'est frappant. Il y a vraiment une archéologie de la musique. On sent que ça, enfin, une grande partie de la musique que j'aime vient de là-bas. Pas forcément que Nashville. On a fait un tour. On est allé à Memphis, à New Orleans, à Austin, à Clarksdale, dans le Mississippi, l'endroit ou Crossroad, où Robert Johnson est censé avoir vendu son âme au diable pour jouer aussi bien de la guitare. Donc on sent vraiment que entre le jazz, dont je suis très fan de jazz aussi, la country, le rock, le blues, que ça s'est vraiment passé par là-bas et que ça se passe encore en grande partie par là-bas.
Et peut-être plus tellement en Californie, qui était dans ces années 70 considéré comme étant le lieu dans lequel se développaient beaucoup ces musiques psychédéliques dont il est question là.
Eh bien, en fait, le psychédélisme vient de Austin plutôt. Je pense que l'un des premiers groupes, c'était le 13th Floor Elevator. Et peut-être le Mexique, les champignons mexicains, etc. Magic Mushrooms. Et je pense que le psychédélisme est plutôt né à Austin. Il y a une grosse scène psychédélique à Austin, notamment en ce moment avec les Black Angels qui viennent de là-bas et plein d'autres groupes. Donc, je pense que le psychédélisme a migré en Californie.
Alors, c'est marrant que tu fasses référence aux champignons magiques. et à leur éventuelle consommation par les musiciens de cette époque-là. C'est drôle parce que finalement, il y a beaucoup de musiciens qui pratiquent des musiques extrêmement psychédéliques et qui sont par ailleurs pas du tout consommateurs de drogue. Enfin, on associe un peu facilement finalement la consommation des substances avec la production de ces musiques qui vont chercher des ailleurs. C'est un peu un lieu commun, quoi, finalement, le côté high on dope and play music.
Je pense qu'à l'époque, c'est surtout une question d'expérimenter des nouvelles libertés qui ont été plus ou moins conquises, qui ont eu des flux et des reflux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus autant d'actualité, cette consommation, etc. Parce que ces limites ont été testées déjà.
Alors peut-être justement des limites testées, des limites aussi du modèle, des limites au modèle de ces contre-cultures. Aujourd'hui, on a l'impression de les voir dans une perspective historique et presque même un peu historiciste. Alors on se contente de ce bout de l'histoire. Est-ce qu'au fond, la façon de mythifier ces musiques des années 50, 60, 70, c'est pas un peu contre-productif aujourd'hui ? Enfin, qu'on a du mal du coup à les dépasser ? Qu'est-ce que tu en penses ?
C'est vrai, c'est pour ça qu'il ne faut pas les mythifier plus que ça. Enfin, aux États-Unis, c'est assez flagrant parce qu'ils ont une capacité à muséifier assez vite leur culture populaire immédiate. Donc il y a des musées d'à peu près tout et n'importe quoi. Et pour un œil européen où on a une culture plus ancienne avec des musées qui sont sur une histoire plus longue, du coup ça donne assez de recul parce que des fois c'est pour un œil européen ça fraise des fois le ridicule des choses ou des reliques. Je pense au musée de la Country Hall of Fame à Nashville où il y a la tasse touchée par Johnny Cash, etc. Donc c'est plutôt drôle en fait, et ça permet de donner assez de distance. Enfin, moi personnellement, dans ma pratique musicale aussi, je sais pas assez bien joué pour permettre d'imiter les autres. En fait, je suis obligé de faire ma propre musique parce que je peux pas jouer celle des autres.
Famoudou, qu'est-ce que tu en penses, toi, sur cette façon un peu de muséifier la contre-culture américaine des années 60 et 70 et en la mettant au musée, en l'installant comme ça sous cloche, de lui faire perdre complètement son
bizarre
sens au fond.
Bizarre. J'étais là-bas à New York, à Détroit, Californie, j'ai joué avec les gens, j'ai vu les groupes psychédéliques. Mais c'était tout à début, c'était musique par les jeunes blancs contre leur société. Nous n'avons pas fait ça au début. Mais à certains points, les musiciens ont commencé à jouer ensemble. Question de drogue, c'était un truc, les promotions, publicité, beaucoup de monde que je connais n'ont pas fait mais nous avons expérimenté parce que je me souviens un voyage en Texas dans le champ où les champignons psychédéliques ils poussent dans le merde de les vaches.
Oui.
On est allé là-bas avec les gants et on a une
petite omelette au psilocybe à l'époque pour ouvrir les portes de l'esprit.
Et puis, mais ça, c'était pas nécessairement pour nous connecter directement à la musique. Pour nous, c'était la révolution. Social noir contre Amérique. Pour les blancs, c'était plus la révolution économique, plus que sociale. Pour nous, c'est pretty much the same. The white kids were revolting against their parents and the system. Uh-huh. We were revolting against all of it.
Les petits blancs, en fait, ils se révoltaient contre leurs parents, contre le système. Vous meniez en place une vraie révolution politique et sociale.
For us, there was no black bourgeoisie, so it wasn't no social revolution,
À l'époque, il n'y avait pas de bourgeoisie noire, donc c'était une vraie révolution politique et sociale aussi.
Il y avait beaucoup de gens qui ont joué ensemble, in spite of segregation. They tried to segregate, but the music, no segregation, the music, boom,
Mais les petits blancs et puis les petits noirs aussi jouaient ensemble parce qu'évidemment, on a beau mettre en place des ségrégations, l'envie de jouer ensemble et le respect de l'autre, bah, il est plus fort que ces ségrégations. C'est vrai que la révolution, c'est pas quelque chose d'historique, c'est pas quelque chose qui se muséifie, c'est quelque chose qui est dans l'instant. C'est au fond comme la musique c'est pas quelque chose qui se met au congélateur ou en boîte, mais c'est quelque chose qui se vit dans l'instant présent. Et d'ailleurs, peut-être, on pourrait avoir l'idée de, dans l'instant présent, de proposer un petit moment de musique. Okay. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oh yeah. All right.
En live sur les 3-8, Famoudou Don Moye au Frame Drums, Jean-Marc Montera à la slide 12 cordes et Pedro Lopez à la 6 cordes. Merci beaucoup pour cette improvisation. Trois musiciens qui participent à la programmation de cette 9e édition des nuits d'hiver proposées par le Grimm. Quelques mots sur ce programme. Ce soir, 16 décembre à 21h à Alain Bob, le label Not Not Fun est à l'honneur et en concert Cancun et High Wolf. À suivre demain, samedi 17, à l'Alcazar, conférence de Mathieu Saladin, c'est à 16h30. Et à la compagnie c'est à Belzins, 19 rue de Présensé, Quasi una Fantasia par Jean-Paul Ponto. Et pour suivre à 21h, à l'Embobineuse, Fall of Saigon, Alro, France Sauvage et le duo Ciné Recuillé. Dimanche, c'est à la compagnie des 17h. Avec Walking in the Shadow de Michel Herizzi, photo de Kumiko Carino et La Faute des Fleurs, un portrait de Kazuki Tomokawa par Vincent Moon. Mardi 20, concert de Moondown, c'est à 20h30 à Montevideo. Et puis le 21, clôture de ce festival, le 21, c'est la nuit de l'hiver, c'est à Entraigues sur la Sorgue. On y retrouvera les Witch qu'on avait pu croiser lors de la précédente édition de ce festival qui était consacré au baroque, et bien entendu on pourra apprécier l'Invisible Ensemble. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Arnaud Maguet, Famoudou Don Moye, Jean-Marc Montera, Pedro Lopez alias Moondown, et vous retrouverez tout le détail du programme de cette 9e édition des Nuits d'Hiver sur grimm-marseille.com.
À la technique, Gilali Amiche.